Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour et bienvenue pour le 17e carnet de région, c'est Delta FM qui en est le rédacteur pour le mois d'avril. Cette semaine, on commence tout d'abord avec du sport, les championnats d'Europe de judo qui se déroulent du 24 au 27 avril à l'Arena de Montpellier, un reportage d'RCF Maglanero. Nous parlerons télévision ensuite avec Delta FM qui nous présente un biologiste marin héraulté dont le reportage sera diffusé sur la chaîne Arte au mois de mai. Nous parlerons du retour du loup dans les Cévennes qui est un sujet sensible de l'actualité cévenole. Il a été évoqué lors de la 16e édition des Éco-Dialogues Vigan, un reportage radio-escapade. Et pour finir, sur une touche d'humour, nous parlerons du premier festival de l'imitation qui se tiendra samedi soir près de Carcassonne, un reportage RCF Pays d'Aude.
Carnet de région, l'actualité en langue de Roussillon.
Après la Russie et la Hongrie, la France accueille pour la 9e fois les championnats d'Europe de judo. Et c'est à Montpellier que tout se jouera. Démarrés depuis hier, les championnats vont s'installer jusqu'à dimanche à l'Arena. 500 judogas du monde entier s'affronteront sur les tatamis. Une première pour la région, comme le souligne Christian Detranchant, président de la Ligue Languedoc-Roussillon de judo et directeur de la Fédération française de judo. Un sujet de Naïma Serve. Pour RCF Maglanero.
C'est une première, pas pour la Fédération française de judo, d'organiser des championnats d'Europe. On en est à peu près à nos, je crois, 9e ou 10e. Mais c'est quasiment, enfin, c'est une première pour la région, mais c'est très rare que les championnats d'Europe s'organisent en région. Puisque la dernière fois qu'un championnat d'Europe en France a été accueilli en région, c'était en 1975 à Lyon. Tous les autres ont lieu à Paris. Donc, oui, on peut dire que c'est une première et c'est une fierté.
Le judo, ici à Montpellier, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de licenciés.
Montpellier, c'est un peu le point noir de la région Languedoc-Roussillon. Nous n'avons pas trop de licenciés sur Montpellier pour cause de manque d'installation et pénurie d'installation. Ça fait 30 ans qu'on nous promet des dojos et des salles, mais on les attend toujours venir. Bon, peut-être que nos amis politiques vont prendre conscience de la place du judo.
Alors pourquoi avoir choisi Montpellier comme ville, on va dire ?
Bah, c'est simple. Hein. Vous savez, pour que les compétitions aient lieu, il faut qu'il y ait des outils. Le seul outil qu'il y a, les deux seuls outils qu'il y a en France capables d'organiser des compétitions continentales ou intercontinentales, c'est Bercy et l'Arena à Montpellier. Donc c'était logique, de par l'outil, d'organiser un championnat à Montpellier, vu que Bercy est en travaux.
À Montpellier, donc, vous accueillerez, il y aura une grande affiche Teddy Riner ici. C'est quand même une grande fierté pour vous.
Oui, c'est une grande fierté, mais il n'y a pas que lui. Vous savez, le judo, on a la chance d'avoir une discipline qui mixe les deux, les hommes et les femmes. Et chaque jour, il y a une mixité dans les catégories de poids d'hommes et de femmes. Alors effectivement, Teddy, c'est la locomotive, c'est l'idole, c'est l'icône, c'est tout ce qu'on veut. Mais on a aussi beaucoup d'athlètes filles et garçons qui ont du talent. Et la famille du judo, effectivement, qui a l'idolâtre Teddy, parce que Teddy, ça va être un palmarès, je crois, jamais atteint dans toutes les disciplines confondues. Mais elle aime le judo, donc elle vient surtout voir tous les compétiteurs, et y compris les filles. Et la chance que l'on a aussi dans cette discipline, c'est des catégories de poids. Donc il y a des filles toutes menues, et puis il y en a des plus costauds, plus lourdes. Tout le monde a le droit de se frotter dans sa catégorie de poids. C'est pas le même judo, mais c'est aussi du plaisir.
Comment se sont passés les tirages au sort ? Est-ce que les Français ont des chances ?
Il faut savoir que ces championnats d'Europe, là, à partir d'aujourd'hui, pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2016, il faut marquer des points sur des compétitions internationales. C'est comme au tennis, on marque des points et on se retrouve sur ce qu'on appelle des ranking lists. Et il y a un numéro 1, numéro 2. Et pour être qualifié pour les Jeux Olympiques, il faut faire partie des 15 premiers. À partir d'aujourd'hui, les points comptent, à partir des championnats d'Europe. Et de monter sur un podium au championnat d'Europe, ça fait un maximum de points dans son escarcelle, ce qui permet de dégager une sélection. C'est plus une sélection aujourd'hui du fait d'un sélectionneur, c'est les athlètes qui se sélectionnent eux-mêmes sur les grandes compétitions. Donc, c'est parti. Et là, la singularité de Montpellier, c'est que dans les bon nombre de catégories garçons et filles, nous avons des jeunes, des très très jeunes qui arrivent et qui ne figurent pas sur les listes, donc qui ne sont pas protégés au tirage au sort, donc qui vont dès les premiers tours tomber sur des leaders européens. et je suis persuadé qu'ils vont les mettre sur le dos, comme l'on dit, parce que nos jeunes sont très très forts. Et c'est, on verra ça dimanche soir, mais je suis persuadé que c'est ce qui va se passer.
Peut-être le nom de ces joueurs qui vont sûrement nous épater durant ce week-end.
Oh ben, y en a plein. La petite Bouchard, 18 ans, championne de France. Elle a été championne de France cadette, championne de France junior la même année, championne de France senior à 16 ans. Et premier tournoi où on l'envoie cette année à Dubaï, elle gagne. Donc voilà, il y a sur celle, si elle passe là, les jeunes qui passent, vous verrez que ce seront des médailles olympiques à Rio et vous en entendrez parler à la une de tous les journaux.
Est-ce que vous espérez, avec ce gros championnat donc, d'Europe qui vient ici à Montpellier, c'est quand même une exception, que le judo s'implante de plus en plus à Montpellier?
Alors il est très implanté à Montpellier malgré la pénurie de salles. Il y a beaucoup de Montpelliérains qui pratiquent le judo. Moi ce que j'espère surtout c'est que notre discipline qui est plus qu'une discipline sportive, c'est une discipline éducative, c'est que cette discipline elle fasse des adeptes et que l'on comprenne que il faut aussi nous accompagner et que les missions de service public c'est pas simplement pour le foot, le rugby ou les sports professionnels. On a aussi des disciplines éducatives qui permettent aux gamins de réussir et le judo en fait partie. Donc j'espère que c'est ce message-là que je veux faire passer et qu'on nous aide à nous implanter pour qu'on puisse continuer à nous développer.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le Sélacanthe, plonger vers nos origines. C'est le titre du documentaire de Gilles Kebali, coécrit avec Laurent Balesta, biologiste marin héraulté. Au printemps 2013, il partait avec une équipe de chercheurs en Afrique du Sud. Le but, produire un documentaire pour Arte, mais aussi en savoir plus sur l'animal préhistorique qu'est le Sélacanthe. Un animal marin qui aurait participé à l'évolution de l'être humain. Pour Delta FM, Laurent Balesta revient sur cette expédition scientifique hors du commun.
Entre le moment où Arte a dit oui et le moment où ça s'est fait, il a fallu quand même 3 années, 40 jours sur place, presque 30 plongées profondes, donc ça fait 5 à 6 plongées par semaine, et beaucoup de sélacanthes croisées, beaucoup de manips scientifiques réalisées sur les animaux, des images spectaculaires. Et enfin, moi, je pense que de loin, ça restera la plus belle aventure de ma vie. Hein. Je pense avoir beaucoup d'imagination et pourtant, j'ai du mal à imaginer qu'est-ce qui pourrait être mieux ou plus impressionnant que ce qu'on a fait cette année-là. Voilà. Et donc, le film sortira bientôt, le 3 mai, sur Arte. Moi, ce que j'en retiens, évidemment, la rencontre avec le poisson, avec ce poisson mythique, c'est inoubliable. Ça part d'un rêve un peu fou et très personnel et ça se transforme en un projet très sérieux et très collectif. Et ça c'est agréable. Ça, déjà, ça veut dire qu'on n'était pas tout à fait fou, qu'il y avait du potentiel. Et puis surtout, ça crée des liens qui durent. Parce que le Sélacanthe, lui, il s'en fout de nous. Alors que ce noyau humain qui a été créé autour de ce projet un peu fou, je pense qu'il est quand même lié. C'est des grands mots, mais il est lié à tout jamais parce que ce qu'on a vécu, on sait que c'est exceptionnel, que ça avait pas été fait avant, donc voilà, c'est voilà. Et puis j'oublie les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui ont été partie prenante dans cette dernière étape du projet en mettant en place tous les protocoles scientifiques, en développant du matériel spécifique. Il faut rester concentré pour que ce peu de temps passé au fond, on le fructifie avec des images, avec des observations scientifiques, avec des prises d'échantillons, avec tout ce qu'on peut, qu'on puisse partager avec les chercheurs et en tirer des conclusions, des résultats. Le Sélacanthe, c'est vrai qu'on croyait qu'il avait disparu jusqu'au milieu du XXe siècle, et puis il est réapparu, il n'est pas réapparu, il était là depuis toujours, mais on l'ignorait. Et comme en plus il a livré ses secrets au compte-goutte, ça a ranimé toutes les passions, enfin ça attise les passions, voilà, ça attise les passions, parce que quand il n'y a rien de plus excitant que quand on vous livre pas tout, quoi. C'est pas n'importe quel poisson. C'est un poisson qui porte en lui les marques du passage de la vie aquatique à la vie terrestre, donc la transition, une des transitions les plus importantes du monde vivant terrestre, puisque il est à l'origine donc des animaux terrestres à quatre pattes, c'est-à-dire des vertébrés terrestres, donc des amphibiens, donc des reptiles, des mammifères et donc de l'homme. S'il n'y a pas la famille des sélacanthes à une époque, il y a 400 millions d'années, il n'y a pas tout ce groupe qui va engendrer ces animaux qui vont, il y a 370 millions d'années, sortir de l'eau. On est allé visiter cet animal dans son univers. Jusqu'à présent, le sélacanthe, on le connaissait surtout quand il était pêché, capturé, remonté en surface, mort. Donc, on l'avait. C'est l'animal qui a été sans doute le plus disséqué après le cheval et le chien. Dans les années 50, 60, tellement il faisait l'objet de convoitises des chercheurs, ils voulaient, voilà. Et pour autant, c'est l'animal dont on connaît le moins le comportement. Imaginez, qu'est-ce que l'on saurait d'une girafe ou d'un éléphant si on ne les avait jamais vus dans la savane.
Le loup est de retour dans les Cévennes et ce n'est pas sans poser de nombreux problèmes, notamment entre éleveurs et défenseurs de l'environnement. Cette problématique a été évoquée lors des derniers éco-dialogues du Vigan par Nicolas Lescureux, chercheur associé au Muséum d'histoire naturelle, ethno-écologue et spécialiste des relations entre les populations humaines et les prédateurs. Il nous donne son point de vue au micro d'Anouk Maillard pour Radio Escapade.
Ben, je pense que la venue du loup en Cévennes et même d'une manière plus générale en France pose de nombreux problèmes parce que on est dans des systèmes qui ont vécu longtemps sans la présence de grands prédateurs et que de toute façon d'une manière générale les grands prédateurs posent des problèmes au système d'élevage et que ça implique de réfléchir en société, c'est-à-dire à tous les niveaux de la société, à ce qu'on veut, à si on veut que les prédateurs reviennent dans ce pays et dans les différentes régions, et dans ces cas-là de quelle manière on peut cohabiter avec eux et les contraintes que ça impose et qui doit supporter ces différentes contraintes dans un souci de garder une forme de justice et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent les contraintes associées aux loups, donc en général les éleveurs et les bergers. Oui, c'est un travail à faire en société qui doit se décider à différents niveaux de la société. Il n'y a pas de solution toute faite parce que les contextes sont toujours différents, les systèmes d'élevage sont différents, les comportements des prédateurs sont différents. Et il n'y a pas de, non, je ne vois pas de solution toute faite. Ça doit se réfléchir en groupe pour savoir ce qu'on veut et à partir du moment où on sait ce qu'on veut, voir comment on peut le faire. Et ça implique une discussion avec tous les acteurs en respectant les savoirs de tous les acteurs et notamment les savoirs des gens qui sont confrontés directement aux prédateurs et en s'intéressant à la manière dont ils voient les choses. Ça reste avant tout des choix de société et après effectivement la science, l'écologie et les savoirs locaux peuvent aider à répondre à la question est-ce que c'est possible ou non de cohabiter avec les prédateurs dans cette zone. Il y a une nécessité de dialogue continu aussi parce que les prédateurs sont capables de s'adapter à des nouvelles situations et donc il faut revoir régulièrement la façon dont on peut cohabiter. Et c'est ce que les gens qui ont toujours cohabité avec les loups dans d'autres pays font en permanence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le premier festival français de l'imitation se tiendra ce samedi soir dans l'Aude à côté de Carcassonne à Pénoutier exactement. Son fondateur Laurent Bourreau nous en dit plus au micro d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
La particularité c'est que ce premier festival, c'est vraiment le premier festival de l'imitation en France. On n'a jamais fait ça, on n'a qu'à regarder sur internet. Il y a un pseudo quelque chose en Belgique, mais c'est vraiment la grosse initiative et c'est quelque chose qui devrait faire parler du département. En tout cas, on va tout faire pour.
Pourtant, il y a des talents en France. Il y a les guignols, qui durent depuis déjà beaucoup de temps. Pourquoi je parle des guignols? Parce que vous allez faire venir quelqu'un des guignols.
Exactement, très bonne transition. Alors, effectivement, il y a Thierry Garcia qui fait partie des voix titulaires au même titre qu'Yves Lecoq, entre autres, ou Sandrine Alexis pour les voix féminines, etc. Qui fait partie des guignols de l'info. Et il sera accompagné d'Anaïs Petit, qui est une imitatrice, évidemment, qui œuvre dans l'émission de Drucker, à savoir Vivement Dimanche. Et puis ensuite, elle est aussi chroniqueuse sur Europe 1. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les deux artistes à eux seuls du monde parisien qui arrivent donc sur la scène de Penautier. Et donc ça représente grosso modo 2h30 de spectacle. Et on fait monter sur scène aussi deux artistes du département, puisque j'oublie pas le département, à savoir un certain Marc-Olivier, qui a gagné il y a 3-4 ans le casting Incroyable Talent sur M6 et qui est le seul et unique en France à imiter des instruments de musique à merveille, y compris des voix. Et puis un petit jeune talent qui arrive qui s'appelle Valentin Ourliac, qui lui va sur ses 18 ans et habite du côté de Rouffiac-Dode, le premier d'ailleurs, j'ai oublié, d'Alzone. Et ensuite, donc, ce sont des talents super avec des castings comme avec Gaëtan Elmaleh récemment pour Valentin Ourliac. Voilà, c'est vraiment 3 heures de spectacle.
Voilà, c'est la fin de ce carnet de région. Merci à toutes les radios qui y ont participé. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux événements.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.